Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Été 2022. Alors que le monde sort de 2 années de pandémie, une nouvelle menace pointe le bout de son nez. Le Mpox, appelé à tort variole du singe ou monkeypox, un virus d'origine zoonotique apparenté à la variole humaine, maladie déclarée éradiquée en 1980. Jusque-là cantonné aux zones rurales et forestières d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Mpox fait son apparition dans des zones non endémiques en mai 2022 où pour la première fois on le retrouve notamment sur le sol européen. En juillet 2022, l'OMS comptabilise déjà 75 pays non endémiques touchés et déclare le virus urgence de santé publique de portée internationale, USPPI. C'est le moment où nous, Européens, en entendons parler certainement pour la première fois pour la plupart. C'est l'époque où, en France, justement, fleurissent dans les toilettes des bars, des restos, des boîtes de nuit, des affiches de prévention décrivant les premiers symptômes de la maladie, les modes de transmission, les préconisations en cas de doute. C'est aussi l'époque où la maladie se forge une réputation sulfureuse rappelant une autre époque. Le Mpox atteindrait principalement les hommes ayant des relations sexuelle avec d'autres hommes. Un biais d'interprétation, faux, faisant oublier que le virus se transmet par voie sexuelle, hétérosexuelle, homosexuelle. Contrairement au Covid, l'existence d'un vaccin contre le Mpox, le même que celui ayant permis 40 ans plus tôt d'éradiquer la variole, permet de maîtriser ce début de flambée épidémique en 2022. Mais en août 2024, nouvelle alerte, nouvelle déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale de la part de l'OMS. Cette fois-ci, les regards se tournent vers la RDC et plusieurs pays voisins, touchés par une recrudescence des infections et par l'apparition d'une nouvelle souche virale possible et plus transmissible. Nos invités ont scruté depuis 2018 les différentes souches de Mpox présentes en République démocratique du Congo dans le cadre des projets AfroScreen 1 et PanAfpox 2, menés conjointement par l'Institut National de Recherche Biomédicale, l'INRB en République démocratique du Congo, donc de l'IRD, de l'INSERM et de l'Université de Montpellier. Leurs résultats, publiés sur celle le 24 octobre 2024, fournissent de nouvelles informations importantes concernant la diversité génétique du Mpox circulant en RDC et sur le type de transmission prédominant. Avec nous en studio, nous avons la chance d'accueillir Martine Peters, virologue dans le laboratoire Transvimi, donc à l'IRD. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Et avec vous, Eddy Lusamaki, donc vous êtes doctorant sous la direction de Martine Peters, donc vous êtes à l'INRB, l'Institut National de Recherche Biomédicale. Bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Vous êtes donc l'auteur principal de cette étude et vous passez votre soutenance, on l'a appris, le 19 décembre prochain, c'est ça?
Exactement.
Ce sera une répétition en plus facile alors. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour,
bonjour.
Aline. En deuxième partie d'émission, nous vous proposons une rediffusion donc, de notre reportage à Semipaille, le centre d'études en maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuse. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Eddy Lusamaki, alors pour commencer, est-ce qu'on peut la caractériser, cette maladie? Comme je le disais en introduction, nous, on en a entendu parler relativement tard, donc du Mpox. On sait qu'elle est apparentée à la variole humaine qui a été terrible, mais donc avec une létalité moindre. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Quels en sont les symptômes de cette maladie?
Oui, c'est d'abord une maladie virale, donc causée par un virus qui appartient à un groupe qu'on appelle orthopox virus. C'est le groupe qui a la variole, le monkeypox, la vaccine. Et effectivement, on peut à ce jour la caractériser, c'est-à-dire séquencer son génome. C'est un peu ce que nous avons eu à effectuer. Et cette maladie se présente sous différentes formes. Mais retenons pour la forme qui circule essentiellement en RDC, que c'est d'abord une fièvre éruptive qui est très débilitante. Je crois que les images sont très spectaculaires en termes des éruptions que nous pouvons avoir, des éruptions qui peuvent toucher la face, la paume des mains, les plantes des pieds. Et l'un des autres signes qui est aussi caractéristique, ce sont les adénopathies, donc les ganglions qu'on peut avoir essentiellement au niveau du cou ou au niveau des laines ou des aisselles. Et après, si ce n'est pas très bien géré, ça peut très rapidement se compliquer. On peut avoir des complications bactériennes et il y a une autre complication qui est très typique, ce sont des complications oculaires au niveau des yeux et ça peut même causer de la cécité. Et après, voilà, si ce n'est pas très bien géré, ça peut conduire jusqu'à la mort.
Alors, Lucie a évoqué en lancement la situation en République démocratique du Congo, qui est un foyer épidémique majeur de la maladie. Aujourd'hui, c'est quoi la situation sanitaire là-bas?
Aujourd'hui, la situation, elle est toujours préoccupante. C'est vrai que depuis 1996, on a observé une hausse des cas. En 2023, donc l'année passée, on a eu plus de 14 000 cas suspects notifiés. Et à ce jour, donc à 2024, l'année n'est pas encore finie, mais on est à plus du double. Donc on est à plus de 38 000 cas suspects notifiés et plusieurs cas confirmés. Voilà, la situation reste assez préoccupante.
Et dans les patients que vous avez inclus dans votre étude, chez qui vous avez prélevé, on en parlera tout à l'heure, des virus, l'âge médian, c'était de 14 ans. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par cette maladie?
Oui, la maladie touche l'enfant. Je crois que le premier cas humain à être détecté en 1970, c'était déjà un enfant. Et effectivement, beaucoup d'enfants sont touchés par la maladie. Le fait qui est plutôt assez inédit, c'est le fait de voir que cet âge médian est en train d'augmenter au fil des décennies. Mais voilà, les enfants sont les plus à risque. C'est parmi le groupe les plus à risque.
Et est-ce qu'en revanche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que les hommes homosexuels sont aussi un groupe plus à risque de maladie?
Ce n'est pas seulement les hommes homosexuels, mais en plus de cela, il y a les pratiques, le nombre de partenaires qui jouent. Mais dans ce qu'on observe en RDC, c'est vraiment la population qui est les plus en risque. C'est vrai qu'on a eu à décrire des cas chez les professionnels de sexe également. Mais voilà, la maladie, personne n'est à l'abri de cela.
Alors, entre 2018 et 2024, vous avez séquencé le génome de 337 virus provenant de 14 régions de la RDC. Donc, la RDC comprend 26 régions. Ces virus, comment vous les avez récupérés? Quels sont vos partenaires sur le terrain? Alors, vous pouvez répondre non. Eddie, comment ils arrivent jusqu'à vous, alors, ces virus?
Alors, d'abord, le Mpox, c'est l'une des 21 entités nosologiques ou 21 maladies à déclaration obligatoire dans le pays. Donc, quand on a une définition de cas, quand chez un patient on voit des éruptions cutanées dans un contexte de fièvre, avec ou sans adénopathie, directement, on est obligé de notifier cela et ça remonte jusqu'au niveau du ministère de la Santé.
Donc, c'est le médecin qui a l'obligation ou c'est la personne atteinte? Comment ça se passe?
Le médecin a l'obligation. Bon, la personne atteinte peut ne pas savoir comment notifier, mais le médecin a obligation de faire rapport à la structure locale qui, elle, saura faire remonter l'information jusqu'au ministère de la Santé. Et déjà sur place, il y a des mesures qui sont prises, entre autres le prélèvement pour la confirmation, parce que la confirmation, elle est essentiellement biologique, elle se fait au laboratoire.
Alors, le virus Mpox, donc responsable de cette maladie, il se distingue en deux clades dont vous parlez dans votre publication. Martine Peters, est-ce que, déjà, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un clade? Nous, on entend parler de souches, de variants, de clades, on ne fait pas tellement la différence.
En fait, quand il y a un virus, on peut... C'est pas un seul virus, c'est plusieurs variants. Il y a deux grandes variants, donc les clades 1 et les clades 2, et qui sont liés à des zones géographiques. Donc les clades 1, il est présent en Afrique centrale, les clades 2, plus en Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi une pathogénicité qui est un peu différente. Le clade 1 serait plus pathogène, avec une mortalité plus élevée que celui du clade 2. Et à l'intérieur de chaque clade, il y a aussi un grand nombre de virus qui sont tous un peu différents chacun des autres. Et en fonction de leur divergence, on va les sous-classer dans le clade 1A ou clade 1B, comme le A ou le B. Voilà, c'est un peu
Et justement, il y a le mode de transmission, ce clade détermine aussi le mode de transmission ou pas?
Pas forcément. Je pense que c'est pas vraiment, c'est un peu le hasard que tel clade peut mieux se propager dans tel milieu parce qu'il est arrivé au bon moment, au bon endroit, dans ce milieu.
Et du coup, est-ce que par rapport au clade 1A et 1B qu'on évoque dans la publication, est-ce que par exemple le 1B, on avait compris que le clade 1B se transmettait de personne à personne et le 1A par voie zoonotique?
Oui, on a vu que dans le clade 1B, c'est une souche qui apparemment circule déjà depuis un moment chez l'homme parce qu'elle a pu acquérir des mutations qui montrent une adaptation à l'homme du virus. Et le clade 1A, c'est en fait une multitude de virus qui circulent dans la faune, qui se transmettent à l'homme. C'est pour ça que il y a peut-être un jour, comme le clade 1B, c'était un virus qui circulait dans la faune, mais qui a pu s'adapter à l'homme et parce qu'il est probablement arrivé au bon moment, au bon endroit. Et rien n'empêche qu'un jour, on a un autre virus du clade 1A qui va pouvoir émerger. C'est plus une nomenclature, c'est plutôt pour suivre un peu l'épidémiologie moléculaire, on appelle ça, de ces virus.
Et oui, vous dites au bon endroit, au bon moment, c'est aussi que les virus, ils profitent de certaines infrastructures. En 2024, le virus, donc, il s'est propagé en Afrique centrale, au Rwanda, au Burundi. Alors, j'ai mis tout le monde en même temps, mais vous allez nous montrer qu'il y a différents. Donc, Burundi, Kenya, Ouganda. Dans votre publication, vous parlez de l'importance du transport fluvial, c'est-à-dire qu'il y a eu... on peut suivre, en fait, le long du fleuve. Le fleuve a servi au virus à sortir des frontières, c'est ça?
Je ne dirais pas. Bon, oui, on peut dire. Oui.
Vous pouvez me contredire, il n'y a pas de problème. C'est une question.
J'essaie juste de... Voilà, de
c'est ce que je disais, je pense que j'ai fait comprendre. Un peu oui. un mix.
Oui, en fait, il y a d'une part l'épidémie humaine dont Martine parlait, du clade 1B, qui justement a émergé dans la partie est du pays, dans la province du Sud Kivu, qui entretient beaucoup de liens, puisqu'il y a beaucoup de mouvements de population dans cette région. Elle entretient beaucoup de liens avec les pays de la région de l'Afrique de l'Est, à savoir le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et même le Kenya. C'est comme ça que nous avons eu justement ces d'autres cas qui ont été notifiés dans ce pays. Et d'autre part, nous avons le clade 1A qui prédomine dans le reste du pays. Et c'est vrai que dans le pays, les infrastructures routières ne sont pas très développées. C'est là, alors que le déplacement, le transport fluvial joue tout son rôle.
Alors justement, le Sud Kivu, vous l'avez évoqué, et vous montrez que là-bas, quasiment tous les cas sont dus au clade 1B, dont on a parlé tout à l'heure, alors qu'avant, il n'y avait pas de cas du tout, ou très peu. Qu'est-ce qui fait que ce clade-là, il est arrivé rapidement et s'est développé si rapidement dans cette région-là? Martine Peters?
Oui, parce que le virus, il est arrivé habituellement en zone forestière, ça se passe dans les villages où la population est limitée en nombre et aussi en contact. Donc là, au Sud Kivu, le virus est arrivé dans une ville qui est une zone minière où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de promiscuité, beaucoup de mouvements de population parce que c'est aussi une zone un peu avec des conflits armés et donc beaucoup d'insécurité qui a permis que le virus a eu beaucoup d'occasions de se transmettre d'homme à homme et qu'il a aussi eu l'occasion de s'adapter et ensuite se faire transmettre plus facilement d'homme à homme.
Pardon, c'est à moi. Alors, donc les génomes du virus trouvés dans les autres provinces, hors Sud Kivu, pardon, correspondent donc dans 95% des cas au clade 1A. Ce clade, il se caractérise, et là je vous cite, par une forte diversité génétique, un faible nombre de mutations, ce qui suggère des transmissions zoonotiques. Alors pour une profane comme moi, comment on arrive à faire le lien entre les deux? Comment à partir d'un virus où on se dit il y a une forte diversité génétique et un faible nombre de mutations, ça a dû être des transmissions homme-animal? Comment vous le savez, ça?
Je crois que Martine en parlait tantôt. Je crois qu'il s'agit des mutations qui sont des signaux ou des marqueurs de l'adaptation humaine. Et effectivement, dans les génomes du clade 1A, nous avons constaté que il y avait moins des mutations de ce type-là, donc des mutations qui sont marqueurs de l'adaptation humaine, contrairement justement au clade 1B où on avait pu comptabiliser une hausse de ces mutations-là.
Et juste pour compléter, aussi dans ces clades 1, il y a des virus qu'on a vus, parce que c'est un POC, ça bouge très vite, ça change très vite aujourd'hui. On a vu émerger certaines souches du clade 1A dans lesquelles on commence à voir des mutations d'adaptation à l'homme. Et ces souches peuvent un jour représenter une autre menace.
Et vous arrivez aussi à, encore une fois, vous allez me trouver naïve, mais vous avez réussi donc à en regardant donc ces virus, à dire il y a plusieurs foyers d'infection homme-animal. C'est pas juste un contact entre un homme et un animal et après des transmissions entre humains. C'est que non, vous arrivez à savoir qu'il y a plusieurs contacts homme-animal. Comment on le sait ça? Comment on le voit?
Ça, je crois que c'est quand on fait la phylogénie, donc quand on fait l'analyse phylogénétique de ces génomes.
C'est comme un arbre généalogique.
Voilà,
du
c'est
virus,
un peu
c'est
comme un arbre généalogique pour essayer de voir l'origine probable des virus, voir si les souches ont des ancêtres communs un peu proches. C'est en regardant justement dans ces arbres phylogénétiques qu'on sait voir que pour les épidémies humaines, la plupart de ces souches se regroupent et sont assez proches. Tandis que pour des multiples introductions, essentiellement pour le clade 1A, on a pu voir qu'il y avait quand même plusieurs souches ou virus qui étaient un peu différentes dans des groupes différents. C'est comme ça que, connaissant que le MPOX est une maladie zoonotique, ça signifie que ce sont des événements différents qui ont toute une histoire différente, peut-être qu'on ne sait pas encore jusqu'à ce jour, mais d'introduction dans la population humaine. C'est un peu comme cela que nous sommes arrivés à déterminer.
Et on ne sait pas exactement encore quel est l'animal réservoir qui transmettrait la maladie, on ne sait pas.
Le réservoir n'est pas clairement identifié. On soupçonne néanmoins où il y a des fortes chances que ce soit des rongeurs. C'est vrai que les rongeurs aussi sont très... Il y a une grande diversité, il y a plusieurs types de rongeurs. Mais on soupçonne que ce soit des écureuils, soit des rats, et des études continuent en ce sens-là.
Alors, pour expliquer donc l'augmentation des contaminations zoonotiques, dans votre article, vous évoquez plusieurs pistes. Ça pourrait être le nombre croissant de cas qui résulte d'une augmentation des contacts directs, donc avec des réservoirs naturels, ou d'une augmentation de la prévalence de l'infection dans le réservoir animal, ou encore d'une augmentation des populations de réservoirs animaux, ou encore une combinaison de ces trois facteurs. Et vous dites que c'est urgent de mieux documenter la nature et l'étendue des réservoirs animaux. Est-ce que ça, Martine Peters, ça permettrait de limiter les épidémies, justement?
Si on connaît mieux quels sont les animaux responsables pour la transmission, on peut mieux faire des campagnes de prévention et expliquer aux populations, attention, si vous êtes en contact avec tel ou tel animal, faites attention, plus qu'avec un autre, ou si vous voyez des plaies sur les animaux, prenez vos précautions. Donc c'est des messages qu'on peut donner après. On peut pas empêcher les gens de chasser, puisque il faut bien se nourrir en forêt, donc, mais on peut donner des consignes pour comment manipuler les animaux ensuite.
Alors, on a montré qu'il y avait des zones qui étaient plus atteintes par un clade, des zones plus par un autre clade. Il y a aussi des zones où les deux circulent. Est-ce que ça représente plus de risques de mutation, ça, quand les deux circulent, Eddie Luzamaki?
La première chose d'abord à noter, c'est que quand il y a ces diverses introductions d'origine zoonotique, donc une fois que ça s'adapte à l'homme, ça peut donner lieu à des flambées. Un peu comme on l'observe actuellement avec le clade 1B. Et actuellement, d'ailleurs, à Kinshasa, on a eu le clade 1A aussi. Je crois que Martine en parlait, où on a vu qu'il y avait des signaux d'adaptation à l'homme et qui donnent lieu actuellement à une grande épidémie qui a dans la ville de Kinshasa, qui est la capitale, une ville très densément peuplée et ouverte au monde. Donc, le tout part d'abord de cela. Et après, une fois qu'il y a co-circulation de deux souches, c'est vrai que ce n'est pas encore très, très, très décrit, mais on peut craindre effectivement qu'il y ait soit des co-infections ou alors que les virus se mélangent et donnent lieu à autre chose. Mais ce n'est pas très décrit pour le Mpox, mais c'est autant de possibilités qu'on ne peut pas exclure.
Alors, c'est une maladie qui est apparentée à la variole humaine contre laquelle il existe un vaccin. Ce vaccin, il est efficace aussi contre le Mpox?
Oui, le vaccin offre une protection contre le Mpox et je crois que sa forme améliorée est celle qui est utilisée, qui a été utilisée et qui est utilisée pour protéger justement les populations les plus à risque.
Mais justement, le fait de disposer d'un vaccin et d'assister quand même à une épidémie qui flambe, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à contrôler l'épidémie avec le vaccin, Martin Peters?
Mais c'est pas si facile à mettre en place. Enfin, il faut aussi aller dans les zones. C'est souvent une zone à conflit. Est-ce que les vaccins, enfin, on peut déclarer l'état d'urgence. Ça veut pas dire qu'on a tous ces vaccins en stock. Il faut les produire. Il faut les acheminer dans les zones où on en a besoin. Et il faut aussi que les populations acceptent la vaccination.
C'est un enjeu, ça, de faire accepter la vaccination?
Oui, surtout quand ces populations sont d'abord déjà assez démunies, manquent des médicaments essentiels et tout. Bon, voir directement, on propose autre chose. Il faut beaucoup d'études anthropologiques, soutenir en fait ces populations et leur montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on achemine, mais il faut les accompagner dans leur vécu, renforcer également les traitements de base et tout, et voilà, ça peut améliorer l'acceptation de la vaccination également.
Alors, la République démocratique du Congo, on en a parlé il y a pas si longtemps pour Ebola. Vos recherches précédentes avaient montré aussi que c'était le foyer, le berceau du sida, la République démocratique du Congo. Est-ce que finalement, la cohabitation de tous ces virus graves dans un même pays, vous avez tous les deux l'expérience du terrain, ça a créé une expertise particulière, est-ce que finalement ça submerge les chercheurs ou au contraire est-ce que ça crée quelque chose de une expertise forte? J'imagine.
Je crois que la survenue des épidémies et des maladies, c'est toujours ce n'est pas toujours plaisant à vivre, mais la force et même la résilience des communautés doit résider dans le fait qu'on apprend de ce qui nous arrive comme un malheur pour être plus fort avec le soutien de toute la communauté. Et justement, nous avons quand même pu acquérir de l'expertise. Plusieurs personnels ont été formés. Moi-même, je suis en formation ici à Montpellier. Donc, on a pu des acquis d'une épidémie d'Ebola en l'occurrence. On a pu être mieux préparé pour réagir face à la pandémie à Covid. Et là, actuellement, on est passé de la pandémie au Mpox. Donc déjà un peu très tôt, on était déjà capable de détecter la maladie, de faire le diagnostic et même de le caractériser, d'en faire le séquençage.
Martin Peters, vous avez parlé à plusieurs reprises des conflits aussi. On connaît la République démocratique du Congo comme étant une zone de conflit. Qu'est-ce que ça implique, ça, sur le terrain? Comment ça peut freiner et la recherche et la détection de la maladie?
Mais ça peut freiner l'intervention des gens sur le terrain qui en ont besoin. Je pense qu'Eddie peut en témoigner parce qu'il est allé sur le terrain à l'Est pendant la grande épidémie d'Ebola. Donc, les gens se font attaquer. Enfin, c'est pas évident.
Vos collègues, oui, vous nous en parliez tout à l'heure. Hein,
oui. Donc, il y a eu, par exemple, pendant la 10e épidémie en 2018 de la maladie à virus Ebola, il y a eu des médecins, des personnels de santé qui ont perdu leur vie, justement parce que c'était des zones d'insécurité. Il y a eu un médecin de l'OMS qui a été assassiné. Il y a eu des collègues qui ont été pris en pleine embuscade. Je me rappelle encore qu'il y avait une fois des collègues qui étaient dans des zones où il y a eu des incendies, des attaques par des rebelles. Donc c'est ça rend vraiment difficile la réponse et surtout le contrôle des maladies. Et même actuellement avec le Mpox, il y a des camps de réfugiés qui sont attaqués. Donc également y mener des interventions, ça peut devenir très difficile. Et même si on a besoin d'aide également des partenaires pour qu'ils puissent venir nous appuyer, je crois que là même aussi, d'un point de vue administratif, il faudra des autorisations, chose qui n'est pas toujours facile parce que ce sont des zones un peu à conflit et voilà, difficiles à d'accès.
Un grand merci à tous les deux pour toutes ces explications. Eddy Luzamaki, on vous donne les félicitations du jury direct.
Merci.
On passe maintenant à notre séquence reportage. Alors nous restons dans le thème puisque nous vous emmenons à Semipaï, n'est-ce pas Aline ?
Oui, tout à fait, puisqu'on a parlé de virus. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter le reportage tourné à la plateforme de sécurité biologique Semipaï où on retrouve Aymeric Néret. Il est ingénieur d'études à l'Université de Montpellier et spécialiste de microscopie électronique. Alors bien à l'abri derrière son poste de sécurité biologique, il scrute les virus pour mieux identifier les molécules susceptibles de les neutraliser et développer peut-être des nouveaux traitements.
Donc voici Aymeric Néret qui est ingénieur d'études à l'Université de Montpellier et qui travaille avec nous comme c'est un spécialiste de la microscopie électronique et aussi de la culture de virus. Et donc c'est ce qu'il est en train de faire, là il est en train, d'essayer de voir s'il arrive à faire pousser des virus dont il va vous parler. Et là il est en train de mettre des produits dont je pense qu'il va vous parler aussi pour s'assurer que sa manip fonctionne bien. Donc vous voyez il travaille sous le fameux poste de sécurité microbiologique. Donc il a les mains sous une vitre, donc sous une espèce de grosse boîte dont on entend bien la ventilation. Et en fait à l'intérieur il y a un flux d'air qui va faire une sorte de mur d'air devant ses bras. Vous voyez, il y a les grilles là. Et donc l'air va bloquer, pareil, ce qui se passe à l'intérieur de la hotte.
Donc là, il n'y a rien qui peut sortir de la hotte.
Exactement. Donc ça, c'est la double protection qui permet cette fois-ci de protéger l'utilisateur. Alors Aymeric, je pense qu'il va vous dire sur lesquels il travaille. Vous allez voir, c'est assez... c'est des noms exotiques.
Alors oui, là j'ai... et en plus je voyage. Donc là j'ai un virus qui s'appelle O-Nyong-Nyong, qui veut dire qui casse les articulations dans un dialecte soudanais. Et j'ai aussi le virus, alors Ross River Virus, qui est le virus de la rivière de Ross en Australie. Comme son nom l'indique, celui qui casse les articulations, c'est un virus qui va attaquer effectivement toutes les articulations, qui va donner des rhumatismes, ce genre de choses. Beaucoup, en fait, donnent après des choses assez communes, des fièvres, de la toux, beaucoup de tueurs, avec, dans les cas les plus graves, des atteintes neurologiques. Mais c'est vraiment les atteintes les plus graves, donc pas les plus communes. Certains auront la chance de ne pas développer de maladie. Donc ceux-là sont très chanceux, mais bon, c'est pas la plupart des cas.
Et alors, est-ce qu'il y a un traitement contre ces maladies ?
Alors c'est en cours, il y a un certain nombre de molécules qui sont testées, qui sont screenées. C'est notamment le but de cette plateforme, c'est de fournir en fait un espace pour que les gens soit viennent eux-mêmes tester leurs molécules ou nous fournissent eux-mêmes leurs molécules et on les teste pour eux.
Vous allez les mettre où, vos plaques que vous êtes en train de remplir ?
Alors, les plaques étaient là où j'avais mes virus. Je leur ai mis une molécule avec une concentration croissante. Et en fait, ce sont des virus qui ont été un peu modifiés pour produire une protéine rapportrice. Et elle va me faire un signal. Donc là, c'est la luciférase. Donc, si la molécule fonctionne, en fait, je vais avoir le signal qui va diminuer petit à petit au fur et à mesure que ma concentration de molécules va augmenter. Donc là, justement, j'ai cassé les cellules et je vais mettre le produit qui va faire réagir ma molécule.
Vous allez l'observer visuellement ou vous allez...
Alors là je peux pas parce que ça va être dans un spectre qui n'est pas visible par nous, mais c'est une machine qui va lire.
Une machine qui est très utilisée, qui est un spectromètre, donc c'est une machine qui va utiliser de la lumière pour vous donner des signaux. et qui peut lire des plaques de 96 puits. Donc ça veut dire on met la petite plaque à l'intérieur de la machine et il va y avoir un petit faisceau de lumière qui va aller puits par puits aller nous mesurer la lumière que les cellules qui ont été infectées vont émettre suivant les conditions. Vous voyez, là, Emmerich, il a un code couleur qui vous dit que plus c'est rouge, on va dire, plus c'est fluorescent, et plus c'est vert, moins il y a de fluorescence. Et que là, il voit que tout fonctionne très bien. Ces cellules, elles sont bien fluo, elles ont produit du virus.
Je vois que du coup, j'ai un effet à des concentrations relativement fortes. Cette molécule pourra fonctionner contre ce virus-là.
Vous pouvez nous redire le nom de la molécule ?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas le droit de la lire. Pour l'instant que ce n'est pas encore publié, je ne peux pas dire ce nom-là.
Et le virus, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez nous redire
aussi. En haut, c'est le O-Nyong-Nyong. Et en bas, c'est le Ross River virus.
Et c'est la même molécule que vous avez vue.
C'est la même molécule que j'ai testée sur les deux. Donc oui, on passe à 70 000 de fluorescence jusqu'à 1000 de fluorescence. Donc oui, là, il y a quand même un gradient assez important. Donc oui, il y a un effet qui est quand même assez présent. Pour l'instant, pour le premier cadre de recherche d'efficacité de molécules, là, oui, ça va être une molécule intéressante.
En revanche, pour le virus qui est en haut, ça reste de la même couleur. Ça veut dire que la molécule que vous avez
dit n'est pas efficace ? En fait, non. La couleur, c'est pour avoir une idée. Mais en fait, on est à 10 millions d'unités de fluorescence et on tombe à 700 000. Donc, si, il y aura quand même un effet, mais il n'est pas total. Donc, il y a un début d'intérêt, mais il va falloir retravailler sur cette molécule. Ou peut-être que l'organisme peut accepter de fortes doses. Et donc dans ce cas-là, on peut doser très fort. Ça va dépendre de chaque molécule.
Merci Aline. Alors je profite des dernières minutes pour vous annoncer que l'écrivaine Juliette Deck sera présente sur le campus Triolet le mardi 19 novembre à 18h15. En lice pour le prix du roman étudiant France Culture 2024 avec donc son dernier roman Anne d'Angleterre, elle échangera avec le public lors d'une rencontre animée par les étudiantes et les étudiants de l'association Scribe. C'est ouvert à tous et toutes. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.